cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ah, c'est vrai, je veux parler de la bonté. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai. Et mon Jésus est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu,
tu es bon.
Oh mon Dieu,
tu es bon.
Oh mon Dieu,
tu es bon pour moi, tu es bon.
Oh mon Jésus,
tu es bon.
Oh mon berger,
tu es bon.
Oh mon Seigneur,
tu es bon pour moi, tu es bon.
Tu as étendu ta main,
tu es bon.
Tu as glorifié ton nom,
tu es bon.
Tu as sauvé des vies,
tu es bon.
Tu as délivré les captifs,
tu
as changé les cœurs, oh mon Jésus-Christ. Personne n'est comme toi, personne n'est semblable à toi, et mon Jésus. Tu as guéri les cœurs, tu as changé les vies, personne n'est comme toi. Merci Seigneur Jésus,
tu
as mis ta main sur nous et tu nous as envoyés. Nous avons dit oui à ton appel. Oh mon Jésus, oh mon berger, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Jésus. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, je parlerai de sa bonté, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que la louange, la gloire, l'exaltation te reviennent au siècle des siècles. Nous voulons nous disposer maintenant et recevoir ta parole. Enseigne-nous tes voies. Garde-nous, Seigneur Dieu. Bénis ce message. Enseigne-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous continuons notre série. Alléluia. Réussir mon mariage est une priorité pour ma destinée. Ce sujet est tellement, tellement important. Quelquefois, j'entends quelques-uns qui disent, non, pour le moment, moi, le mariage, c'est pas trop mon challenge, j'ai d'autres projets, tout ça. Mes amis, c'est important de connaître ces choses. Même si ça ne vous concerne pas pour le moment, il faut le savoir. Même si vous estimez que vous avez déjà pris de l'âge, il faut être informé de ces choses pour vos enfants, pour vos proches. Il faut savoir leur donner des conseils. Il faut comprendre le fonctionnement de Dieu en ce qui concerne le sujet. Si ce n'est pas le temps, vous estimez que ce n'est pas encore votre temps, il faut saisir ce message. Ainsi, au temps marqué, lorsque vous allez sentir le temps de vous marier, vous serez réellement prêt parce que vous avez reçu des principes importants. Le mariage, donc, comme nous l'avons dit depuis le début, est un accélérateur de destinée. Le mariage est un élément qui vous permet de propulser votre destin. Donc, si vous êtes déjà marié, cet enseignement vous concerne. Si vous ne l'êtes pas encore, encore un peu plus même. Il vous concerne aussi. Amen. Tout à l'heure, on a vu visionner quelques images extraordinaires de ce programme de gagnoir
et puis précédemment les tours 931 et tout ça. Et quand on voit l'église, vous savez, quand je vois l'église, je vois tout ce qui se passe, la façon dont Dieu nous conduit à faire les choses. C'est vrai, ce n'est pas parfait, mais je constate que Dieu nous donne de nous améliorer constamment et de faire les choses pour sa gloire de manière excellente. On ne les fait pas dans le but de plaire aux hommes, mais le culte est pour Dieu. Je crois qu'on doit donner à notre Seigneur les meilleures choses qu'on a. Je crois que si Dieu nous donne la capacité d'aller faire une campagne et que Dieu nous a fait la grâce d'avoir des moyens pour... On ne doit pas faire quelque chose de médiocre, on doit faire quelque chose de beau parce que Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Mais vous savez, ce pan de mon ministère, cette faveur-là, cette grâce que le Seigneur m'accorde, je l'ai vu se manifester dans ma vie, par mon mariage. Amen. Je crois que nous ne serons pas là. Et vase d'honneur ne serait pas vase d'honneur sans ma merveilleuse épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Non, c'est la vérité, mes amis. C'est la vraie vérité. Depuis que je me suis donné à Jésus, ou bien au début de ma conversion, depuis ma conversion, j'ai toujours eu le fardeau de l'évangélisation. Toujours. Aller parler du Seigneur, travailler au salut des personnes. C'était là en moi. Je parlais de Dieu. Je parlais de Dieu. Et je vous ai déjà raconté l'histoire selon laquelle, à un moment donné, malgré le fait que Dieu m'avait dit ce n'était pas le temps de m'engager dans les fiançailles avec elle, je me suis engagé. Il m'a dit que c'était elle, ma femme, mais ce n'était pas le temps. Et je n'avais pas compris ce message. Et c'est elle-même qui involontairement me l'avait donné. Je priais, Dieu me dit. Je dis, parce que quand je la voyais, j'étais attiré. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est elle? Et j'ai tellement fatigué, Dieu dit, ok, c'est elle. Mais ce n'est pas le moment. Et elle aussi, je partais à une fête qu'elle organisait là, et elle faisait tirer des versets bibliques. C'est dans un panier, elle n'a pas fait exprès. Elle a mis plusieurs versets, chacun avait son verset à tirer. Moi, le verset que j'ai tiré, c'est ne réveillez pas l'amour avant le temps, de canter des cantiques. Je me suis dit, mais si je la connais déjà, si Dieu m'a déjà montré ma femme, pourquoi tarder? Allons en même temps. Donc, je lui ai parlé, elle a accepté. C'était l'erreur. Mais c'était aussi mon école de formation. Parce que ce n'était pas le temps. Ce qui va se passer, c'est qu'après la première année, au milieu même de la première année, même de notre cheminement, les choses ont commencé à être bizarres. On ne s'entendait pas. Bref, nous nous sommes séparés à sa demande. Celle qui a dit c'est fini. Moi, j'ai dit pourquoi. Bon, bref. Et la première année, parce qu'on est resté séparés 4 ans. Pendant les 4 ans, la première année de ces 4 ans-là, j'étais convaincu que c'est elle qui avait tort. Parce que je dis, quand je priais, je dis, mais Seigneur, c'est elle qui a dit, elle veut plus, ce n'est pas moi. Et pendant 7 ans, je priais pour qu'elle soit délivrée de ce qui l'avait amené à me rejeter. Je ne sais pas si c'est les démons, en tout cas, je priais. La deuxième année, je me dis, le tort vient de toi. Et si c'est toi qui avais tort? Je dis, comment? J'étais quelqu'un de très spirituel, que beaucoup de personnes appréciaient. Mais j'avais certains problèmes. Et je vous ai dit, vous savez, le mariage va vous permettre, dans son processus, de découvrir les parties cachées de votre personnalité, que vous-même vous ignorez. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse se connaître à 100%. Vous voyez? Et Dieu nous le montre physiquement. Physiquement, même dans votre corps physique, il y a certaines parties de votre corps que vous n'avez jamais vues directement et que vous ne verrez pas, si ce n'est dans un miroir. Et même encore là, il faut faire des gymnastiques. Si par exemple, vous avez une tache au milieu du dos, vous ne l'apercevrez pas. Ce qui est vrai sur le plan physique, elle est là aussi dans le monde spirituel. On a des défauts qu'on ne voit pas nous-mêmes, malgré tout le bon jugement qu'on peut avoir de nous, malgré toute notre sincérité, il y a des parties de nous qui nous sont inaccessibles. Le milieu du dos ne peut être vu que par une tierce personne. C'est ton propre corps, mais toi-même tu ne le connais pas à 100%. C'est quelqu'un d'autre qui va te dire ce que tu ne vois pas. Et quand les personnes nous mettent le doigt là-dessus, on dit non, parce que nous on ne les voit pas. On dit non, on n'est pas comme ça parce qu'on est sincère. Quand on regarde ici, on est bien habillé, quand on se regarde dans le miroir, on peut être là bien habillé, bien vêtu. Non, là, rien à faire, on se parfume, on est propre. Mais il se trouve qu'il y a un oiseau qui a fait un excrément qui est tombé au milieu de votre dos quelque part là-bas. Donc pendant que vous marchez, les mains dans la poche, très fier de votre apparence, ceux qui tournent le dos voient une grosse tache bizarre, gluante sur votre dos. Et Bon, s'ils ont le courage, quelques-uns vont le dire, mon ami, il y a une tache sur toi, d'autres ne le disent pas. Hein, c'est un peu comme, ça vous est arrivé à tous, tu as fini de manger, il y a un truc sur tes dents. Tu es là, tu ne sais pas, un truc bizarre, un fil, il peut être vert comme ça, parce que tu as mangé des feuilles, et puis tu peux rire. Regarde, tu es bon. Maintenant, tout le monde voit le truc qui est là sur tes dents, on veut te signaler. Mais toi, tu ne vois pas, tu ris aux éclats. Hein? Donc, les gens vont essayer de te faire un signe pour faire quoi? Bon, mais si tu ne vois pas, voyez donc, le monde est comme ça. Et pendant que je pensais que j'étais bien, je ne voyais pas ce qui n'allait pas. Et Dieu va prendre ces 4 ans, parce que j'étais un peu endurci, ça aurait pu être plus court. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça sera plus court, parce que vous avez le privilège d'entendre ces choses. Amen. Le temps est plus court. Il a pris ce temps-là pour m'expliquer ce qu'est le mariage, pour découvrir le trésor extraordinaire qu'il y a dans le mariage et qu'il y a dans celle que j'allais épouser. Pendant cette période-là, j'ai fait 2 songes, j'ai eu 2 visions qui m'ont beaucoup marqué. Et aujourd'hui, je comprends en quoi est-ce qu'elles m'aident vraiment. Et elles m'ont aidé dans le ministère à atteindre cette dimension et même encore à aller plus loin. Parce que je suis convaincu que je n'ai pas encore tout exploité. La première vision, je revenais d'une évangélisation, comme j'avais l'habitude de faire. Vous voyez, moi je crie au carrefour, les gars qui sont au carrefour, qui crient, ah, courant Jésus, courant Jésus. Je peux même le faire encore. J'aime bien ça. Amen. Ok. Je criais au mégaphone, tout ça, voilà. Et un jour, je suis revenu, je crois que je m'étais arrêté dans une des églises, l'Assemblée de Dieu, je m'étais assis, et puis je priais le Seigneur, parce que je sentais que malgré toutes mes actions et tous mes efforts pour plaire à Dieu, pour faire avancer l'évangile, je me sentais profondément affaibli, inefficace. Et puis dans une vision comme ça, le Seigneur me montre que mon corps est séparé en 2. Il y a une partie qui était vide. Et c'est un peu comme si j'essayais de supporter tout mon être avec la moitié de mes capacités. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi cette image-là? Il dit, tu n'es pas au complet. Je dis, comment je ne suis pas au complet? Il dit, tant que tu n'as pas encore Liliane, tu ne pourras pas réaliser exactement ce que tu es appelé à faire. C'est vrai que tu fais des choses bien, mais c'est insuffisant par rapport à ce que tu vaux et à ce que tu peux. Je dis, ah bon? Mais Seigneur, ce n'est pas de ma faute, celle qui ne veut plus venir. Il dit, tu dois tout faire. Tu dois faire tous tes efforts pour conquérir. Je dis, mais Seigneur, c'est elle qui me chasse. Sinon, ça, quoi, moi j'ai essayé, je lui ai envoyé des fleurs, j'ai envoyé des mots, mais j'étais maladroit, j'étais bizarre. J'ai moi que j'ai fait tout ça, mais elle ne veut pas. Elle dit, parce que tu n'es pas encore prêt. Je dis, mais donc le travail m'incombe. Pourquoi tu me fais des reproches pendant que c'est elle qui dit non? Et j'ai commencé à prier. Et vous savez, le mariage, c'est quelque chose qu'il faut. Le bonheur du mariage doit se chercher profondément. Le mariage vous propulse, c'est extraordinaire. Alléluia. Et puis, il y a eu cette vision. Il y a eu une seconde vision où j'ai vu, je voyais comme si j'étais de l'eau. Bon, j'ai vu de l'eau qui coulait à même le sol, donc sur la terre, hein, la terre. Il y avait beaucoup d'eau, mais l'eau n'était pas canalisée. L'eau n'était pas dans un lit. Donc il y avait beaucoup d'eau qui pouvait constituer même un fleuve. Mais il n'y avait pas de canal pour canaliser cette eau-là. Et elle se perdait, donc il y avait de l'eau, ça arrosait par-ci, ça arrosait par-là, ça partait par-ci, ça partait par-là. C'était un peu disparate. Et puis je regardais cette image, et c'est comme si le Seigneur me dit, mais tu vois, tant d'eau perdue. C'est vrai que certaines plantes en profitent, mais l'eau est dispersée. Et puis Dieu me donne maintenant la seconde image. Dans la seconde image, je vois un grand lit, un caniveau de fleuve, un lit de fleuve, un lit, mais qui était pratiquement vide. Il y avait au milieu un petit filet d'eau qui s'écoulait et puis qui partait. Je dis, oh, c'est dommage hein, qu'il y ait un si grand lit de fleuve qui n'est pas plein. C'est du gaspillage. Et puis le Seigneur me montre que, il dit, tu vois, l'eau qui n'est pas canalisée, c'est toi. Ce dont tu as besoin, c'est ta femme, parce que elle est le canal où il y a un petit filet d'eau. Déjà ta vie arrose plusieurs, mais si tu es canalisé, tu en tireras le meilleur profit et l'humanité tirera le meilleur profit des choses que j'ai déposées en toi. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Lorsque j'ai patienté, j'ai travaillé, je me suis amélioré après ces 4 années, Dieu a disposé son cœur et nous nous sommes remis ensemble. Et ma vie, au fil du temps, va être totalement transformée. Moi, naturellement, je ne suis pas quelqu'un très attentionné sur le détail et les choses qui sont bien. Elle, je la trouve, à l'époque, je la trouvais un peu trop sur le détail, sur la beauté. Elle tient à la façon dont les assiettes sont essuyées. Ma femme, elle est dangereuse. Hein? Si les filles de la maison, je t'assure, tu as lavé le verre, mais si c'est un tout petit peu mal lavé, elle le sent. Elle prend, elle regarde ces choses-là. Au départ, ça peut paraître être exaspérant. Mais à un moment donné, si tu sais regarder au-delà de ce qui paraît embêté, parce que quand j'arrive dans mon désordre là, j'ai jeté mon pantalon par-ci, elle dit non, il faut de l'ordre. Et parce que Dieu m'a dit qu'elle est un trésor et que je croyais en la parole du Seigneur, j'ai commencé au fur et à mesure à me prédisposer. Donc du coup, j'ai commencé à sentir l'importance de bien faire les choses dans l'ordre et que les choses soient propres. Dieu m'a ouvert mes yeux sur un pan de l'évangile que j'ignorais. Je savais prêcher que Christ est Seigneur, je connaissais la profondeur des messages, mais je ne savais pas aussi que Dieu faisait aussi toutes choses belles et que tout ce que Dieu fait est excellent, est beau, est bien fait. Alléluia. Lorsque ces deux éléments-là se sont complétés, alors, je crois que ça a donné maintenant à mon ministère une tenue nettement meilleure. Et je n'ai pas encore fini d'atteindre le meilleur. Le meilleur est à venir. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai en train de dire? La femme ou l'homme avec qui tu es détient en son sein un trésor qui t'est nécessaire. Mais tu ne le vois pas. Parce que tout ce qui est trésor, tout ce qui est valeur, tout ce qui va te propulser, tout ce qui est important dans la vie est toujours caché. Tout trésor est caché. Pour aller prendre du diamant, il faut se salir. Celui qui va chercher un diamant, tu vas le voir dans la boue quand vous voyez les personnes retirer les diamants. Ou même quand vous voyez même les gens dans les mines, vous les voyez, ils sont sales, ils sont crasseux, ils ont des casques là, ils rentrent dans des coins bizarres. Et tu peux te moquer de ce qui est apparent. Mais la pierre qu'ils vont trouver va subitement changer leur vêtement dont tu te moquais. Parce qu'avec ça, ils pourront mieux s'habiller. Va changer leur vie. Donc tout ce qui est riche, tout ce qui peut changer votre quotidien se trouve dans des choses qui au départ vont vous donner l'impression de vous salir. Ce qui est le trésor se trouve souvent après ce que tu rejettes. Celui qui va chercher de l'or ne cherche pas à se salir, mais il va se salir. Celui qui veut chercher du diamant ne cherche pas à paraître négatif, mais le trésor se trouve après ce qui semble être négatif. Alléluia. Je suis en train de dire que derrière le caractère bizarre que tu trouves en ta femme, derrière le caractère bizarre que tu trouves en ton homme, se trouve un trésor. C'est celui-là qui va faire la différence. C'est celui-là qui va te propulser vers ton destin. Il faut savoir regarder au-delà du voile. Alléluia. Cherchez à ce que votre mariage vous propulse vers votre destin, c'est courir après le diamant qui se trouve dans votre conjoint. Derrière ces paroles acerbes, piquantes, blessantes, se trouve certainement le trésor. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen vitaminé. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Donc, l'homme ou le conjoint idéal, c'est cette perception-là qu'on a, ou bien, je reprends ma phrase, reconnaître le bon conjoint, le conjoint assorti, c'est cette perception spirituelle que vous devez avoir pour savoir que à l'intérieur de cette personne, il y a un trésor. Alléluia. Vous regardez, si vous connaissez ceux qui cherchent le diamant ou bien le pétrole, ils ont des petits signes. Ils peuvent se tromper. Mais lorsqu'ils regardent le sol, ils peuvent te dire s'il y a de l'or ici. Ils peuvent arriver puis te dire, ils sont convaincus que dans cette terre-là, il y a énormément de pétrole. Parce que le pétrole, le diamant ou les matières précieuses laissent des formes de reflets ou des signes sur ce qui apparaît. Vous me suivez? Alléluia. Il va arriver dans un endroit, il va te dire, ici, cette terre-là, il n'y a rien. Quelqu'un qui connaît peut te dire, cette terre-là, elle va te donner énormément de VA et de cacao. L'autre peut arriver, va te dire, ici, il n'y a rien. Quelquefois, les deux sols d'apparence se ressemblent. Mais il faut une autre connaissance. Il faut savoir apprécier l'extérieur. Et c'est cela la deuxième partie de la reconnaissance. Ce que nous avons étudié il y a environ trois dimanches, c'est comment je reconnais ce que nous sommes en train d'étudier, l'étape dans laquelle nous sommes à ce type. Comment je reconnais le conjoint assorti, c'est-à-dire celui qui détient mon trésor, qui détient le trésor dont j'ai besoin. Amen. Comment je le reconnais? Alléluia. Et nous nous sommes basés sur la déclaration de Adam lorsqu'il a rencontré Ève. Déclaration qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 nous présente le processus du tout premier mariage. À l'intérieur de ce processus, Dieu donne des clés. Comment est-ce qu'on reconnaît la personne idéale? Maintenant, pour ceux qui sont mariés, cet enseignement ne vient pas remettre en cause votre mariage. Il vient simplement vous dire que vous n'êtes pas en train de tirer le meilleur de votre mariage. Donc, en revenant sur certains principes, ce n'est pas que vous allez changer de conjoint, c'est juste que vous allez faire ressortir, parce que le trésor qui est dans cette personne-là va aussi vous propulser. Alléluia. Il ne s'agit pas de divorcer, mais il s'agit simplement de reconnaître la personne avec laquelle on est. Alléluia. C'est-à-dire de retrouver, de connaître à nouveau, de connaître plus profondément la personne avec laquelle je suis et amener ce trésor-là à être manifesté. Amen. On a vu que Jacob a été trompé et il a marié Léa. Mais, malgré le fait qu'il soit rendu compte, il n'a pas divorcé de Léa. Et effectivement, dans Léa se trouvait un trésor qu'il recherchait, se trouvait Judas. Judas qui est l'aïeul de Jésus. Donc, c'est Léa. Léa qui était un choix par erreur. Vous me suivez? Léa qui était un choix par erreur portait pourtant la destinée, le destin de Jacob. Si vous êtes déjà marié, il ne faut pas divorcer. Dans la femme que vous avez, l'homme avec qui vous pensez vous êtes trompé, se trouve le trésor. En fait, Dieu, je ne sais pas comment, mais il se sert de cette erreur pour glorifier son nom. Alléluia. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Aussi dans Rachel, qui est la femme que Jacob recherchait, se trouvait aussi Joseph. Donc, les parts se sont retrouvées quelque part. Amen. Jacob devait chercher en vérité. Alléluia. Alléluia. Donc, la reconnaissance, donc reconnaître le conjoint, est basée donc sur ce texte que je disais tantôt, Genèse 2, verset 23. Adam voit Ève et il dit ceci, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Adam s'exprime pour dire, « C'est vraiment ma femme. » Il dit, « Voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. » Et la Bible dit, « C'est pour cela. » C'est à cause de cette déclaration. Ça veut dire que c'est lorsque cette déclaration-là est vérifiée. Il dit, « C'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Autrement dit, lorsque tu as reconnu le conjoint idéal, pour une telle personne, pour un tel trésor, tu es à même de quitter ce qui t'a formé. Ton père et ta mère sont tes origines. De quitter pour aller maintenant commencer une nouvelle descendance, une nouvelle famille, pour bâtir quelque chose de grand. Amen, amen. Donc pourquoi? Parce que Adam a dit, os de mes os. Première partie de la reconnaissance. Priorité de la reconnaissance. Comment je reconnais ma femme ou bien mon mari? C'est en disant, os de mes os. Qu'est-ce que signifie os des os? Prenez les CD que j'ai traités, les enseignements que j'ai traités précédemment. J'ai traité longuement ce sujet. Tout simplement, ça parle des valeurs, de l'esprit intérieur de la personne. Comment on peut connaître les profondeurs d'une personne sans être resté longuement avec elle-même? Comment Dieu le fait? Et cela, c'est dans les enseignements précédents. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le deuxième élément de la reconnaissance, chair de ma chair. Dis avec moi, chair de ma chair. Donc Adam dit, voilà celle qui est os de mes os, et puis chair de ma chair. Vous ne pouvez pas reconnaître votre conjoint chair de la chair. Chair de la chair, ça veut dire physiquement. Chair de la chair, c'est la partie physique. Chair de la chair, c'est ce dont j'ai parlé tantôt. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois sur la terre, sur le visuel, qui me dit que sous ce sol-là, il y a du pétrole. C'est ça, chair de la chair. Qu'est-ce que je vois? Je sais ce que je cherche, mais ce que je cherche n'est jamais visible. Ce que je cherche se trouve toujours caché. Comment je peux retrouver ce que je cherche en regardant juste l'apparence physique d'une personne? Alléluia. En regardant juste l'apparence physique, comment, une chose aussi que je classe dans l'apparence physique, en écoutant ce que la personne dit. en regardant sa façon d'être, sa manière de se comporter, sa façon d'agir. Comment, au travers de cela, je peux distinguer que cette personne-là est mariable? Alléluia. En regardant ces choses, je suis déjà marié ou je vais peut-être encore me marier, je compte me marier bientôt. Comment, juste du visuel et des temps de parole que je passe avec la personne, je peux me rendre compte que c'est l'homme ou la femme qui m'est assorti, avec qui je pourrais atteindre mon destin? Et tout ce qui est visuel, ça se trouve dans la notion de chair de la chair. Dans chair de la chair, il y a deux grandes choses. Amen. La Bible dit que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Dans chair de la chair, il y a la convergence de vos âmes. Et dans chair de la chair, il y a la convergence de votre apparence physique, de votre physique. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pour ce qui est de l'âme, j'aurais pu associer l'âme à l'esprit. Os de mes os, je vous ai dit, c'est l'esprit. Alléluia. Parce que l'âme aussi n'est pas visible. Mais l'âme, par contre, l'âme n'est pas visible avec les yeux physiques. Mais l'âme d'une personne se sent. Parce que dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'âme, on a le tempérament d'une personne. Son tempérament, ça y est, dans son sang. C'est le sang qui détermine le tempérament d'une personne. C'est quoi le tempérament? Il y a quatre types de tempérament. Je ne vais pas citer les quatre, mais dans les quatre types de tempérament, on a deux grands types, ceux qu'on appelle les extravertis et puis les introvertis. Une personne extravertie, c'est une personne qui, pour résumer, qui exprime plus ce à quoi elle pense. Une personne introvertie, c'est une personne qui cache ou qui exprime peu. Elle pense plus qu'elle agit. Un extraverti, il agit. Est-ce que c'est plus qu'il est moins? C'est-à-dire, il pense, il agit. Lui, voilà. Maintenant, il y a des. En vérité, on est plus ou moins un peu mélangé. Il y a des extrêmes. Un extrême extraverti, c'est une personne dont on dit souvent, sa bouche ne porte pas. C'est-à-dire, ce qui est venu, ça sort. Va regarder une personne, mais pourquoi tu n'es pas joli? On dit, mon frère, on ne dit pas ça. On pense. Et puis. Donc, voilà. Ça, une personne extravertie, c'est une personne qui exprime toutes choses. Ça, c'est le tempérament. Une personne introvertie, elle pense les choses. Elle n'exprime pas. Une personne introvertie extrême, ah, c'est aussi fort, hein. Elle dit rien. Ce côté du tempérament, je vais le traiter quand je vais parler des foyers, des couples. Mais ça fait partie des éléments importants. Généralement, les conjoints assortis sont complémentaires. Si le monsieur est un peu extraverti, parce que généralement on n'est pas trop extraverti, on est un peu extraverti, un peu intro. C'est-à-dire, il y a un petit mélange par pourcentage, c'est pas ça? Il y a même parmi nous qui est extraverti. Si tu reconnais que tu es un gars, une femme, en tout cas, tu agis au quart de tour. Tu as des projets, tu commences en même temps. Oh, l'introverti, il a des idées. Plus tard, je dois analyser, réfléchir avant de commencer. Qui sent qu'il est un peu extraverti? Moi, un peu quand même. Qui sent qu'il est un peu introverti? Maintenant, et les autres, vous êtes où? On dit forcément, vous êtes quelque part, non? Ou bien qui ne sait pas où il est? Amen. Ok, bon. Mais ça, je vais l'aborder une prochaine fois. Mais c'est important. Deux personnes, généralement, sont un peu complémentaires. Généralement, ça va mieux. Si le monsieur est un peu. Il agit beaucoup plus sans trop réfléchir, la femme doit réfléchir un peu plus avant d'agir. Si la femme agit beaucoup plus qu'elle ne réfléchit, l'homme doit être un peu plus posé. Voilà. Il faut savoir jouer. Il faut l'équilibre, quoi. Voilà. Si deux personnes sont extrêmement introverties, c'est-à-dire les deux personnes ne parlent dans le foyer, c'est-à-dire se regardent. Le monsieur pense qu'il aime sa femme, la femme pense qu'elle l'aime, mais comme elle est extrêmement, elle ne l'exprime pas. Donc les deux personnes expriment quoi que ce soit, ça peut poser des problèmes, c'est pas ça? Si les deux aussi sont trop extravertis, vous imaginez une maison dangereuse, on dirait une bombe. Amen, amen. Ok. Une chose qui est importante que j'ai omis de dire, c'est de la reconnaissance de la chair, chair de ma chair, ça permet beaucoup de choses. Généralement, le conjoint idéal, on le voit avec os de mes os. Si vous avez écouté ce que j'ai dit sur os de mes os, vous allez me dire, mais pasteur, c'est déjà suffisant. Avec ça, on sait qui est mariable, qui n'est pas mariable. Mais en fait, chair de la chair permet certaines choses très, très, très importantes. Amen. Chair de la chair, par exemple, va vous garder de ce qu'on appelle l'impudicité. La reconnaissance de la chair garde. La reconnaissance de chair de ma chair permet de connaître le temps idéal pour se marier. Alléluia. Chair de la chair ne va pas trop déterminer si c'est l'homme ou la femme à sortir. Chair de la chair va plutôt te donner un peu le temps. Va te dire à quel moment cela est bien. Vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Là, vous ne l'aurez pas à l'écran, je viens d'y penser. Chapitre 7, verset 2, il est dit, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Pour éviter la débauche, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû et que la femme agisse de même envers son mari. C'est-à-dire, il dit dans ce passage, il parle ici des rapports intimes, hein. Il dit que la femme donne à son mari ce que son mari attend physiquement d'elle. Que le mari aussi donne cela à sa femme. Et l'apôtre Paul dit que le fait que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme, ça garde une personne. Mais notez bien, il n'a pas dit pour éviter l'impudicité qu'un homme ait une femme. Que l'homme ait sa femme, ça. C'est la personne qui te va là. Que vraiment, il te sera difficile de tromper. Si tu maries une femme que physiquement tu n'apprécies pas, tu seras constamment tenté par celle dont le physique t'attire. En tant que bon croyant, os des os, rempli du Saint-Esprit, tu vas résister. Mais pourquoi exposer ton corps à une telle tentation? Donc déjà, trouve du plaisir avec le physique et l'apparence de ton conjoint. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc Paul dit, pour éviter l'impudicité, il faut avoir ta femme, pas une femme. Parce que si tu prends une femme comme ça, qui n'est pas chère de ta chair, parce que les rapports intimes, ça parle de contact physique à contact physique. Si tu prends quelqu'un comme ça, tu vas voir que ta chair brûle pour d'autres personnes. Mais si tu trouves déjà ton plaisir dans la personne qui t'est assortie, ça n'est pas dit que la convoitise ne peut pas rentrer, mais tu es déjà, en tout cas, ça met un garde-fou supplémentaire. Alléluia. En plus de ta foi déterminée, amen, déjà, tu es déjà content même quand tu rentres à la maison de la voir. Amen, amen. Amen. Donc, chair de la chair permet de terminer le temps du mariage, le temps idéal, et chair de la chair permet de protéger, de préserver un foyer dans la sainteté. Gloire à Dieu. Du côté de l'âme, après le tempérament, tout à l'heure j'ai dit, il faut que les tempéraments soient plus ou moins complémentaires. Et ça, nous le verrons lorsque nous parlerons des couples. Mais vous avez une chose qui est très importante, c'est la maturité. Dis avec moi la maturité. Lorsqu'on dit chair de la chair, comment je reconnais qu'une personne a l'apparence qui me va? Qu'est-ce que je dois rechercher? Je dois chercher, est-ce que la personne est mature? La maturité existe en trois niveaux. Il y a la maturité physique, c'est-à-dire l'homme a atteint la majorité ou la femme a atteint la majorité. Regardez la Bible. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est une affaire d'homme et une affaire de femme. On n'a pas dit le garçon, le petit, l'enfant quittera ses parents pour aller s'attacher à la fille. Non, c'est une affaire d'homme et de femme. Pour parler de mariage, le mariage c'est une affaire d'homme. Le mariage c'est une affaire de femme. C'est pas une affaire d'enfant. n'est pas la fille, pas l'enfant qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à une fille. Non. Parce que si on disait fille, elle peut être petite. Mais lorsqu'on dit femme, la notion de femme, ça traduit une certaine maturité. Ça traduit une certaine visibilité de la vie. Lorsqu'on dit un homme, ça traduit une certaine maturité. Donc le mariage, c'est pour les hommes et les femmes. Le problème, c'est que l'homme et la femme ne sont pas seulement déterminés par l'apparence physique ou par leur date de naissance. Quelqu'un peut être physiquement mature, atteindre la majorité, mais dans l'âme, être un enfant. Parce que l'âme ne grandit pas avec forcément les années. L'âme grandit dans sa capacité à gérer les frustrations. Une âme grandit dans le calme intérieur. Une âme est grande, une âme devient mature lorsqu'elle est capable de s'auto-soutenir. Amen. C'est pareil aussi pour l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si je rencontre une fille, une dame, je veux la marier, je dis oui, os de mes os, vraiment, elle est spirituelle. Quand je vois, on a la même vision. C'est bien. Mais quel est le temps? C'est ce qui s'est passé entre moi et puis ma femme. Je n'étais pas mature. C'est pourquoi c'était elle, mais ce n'était pas le temps de me marier. J'étais encore un enfant émotionnellement. Physiquement et dans l'esprit, on m'appelait l'homme de Dieu. Physiquement, c'est l'âge de se fiancer. Spirituellement, un frère qui prie, qui aime la parole. Mais dans l'âme, j'avais été en manque d'affection. Parce qu'une âme, lorsqu'elle est enfant, ses parents la nourrissent d'émotions, d'affection, d'attention. C'est pas ça? C'est ce qui fait grandir l'âme. Le corps physique grandit en mangeant la nourriture physique. Votre âme grandit en mangeant. L'âme mange les, si vous voulez, les émotions. C'est ça sa nourriture. L'esprit a une autre nourriture. C'est la parole. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est ce qui fait grandir l'âme. Dans l'âme, dans sa nourriture, il y a des menus. Hein. Il y a des menus. Il y a des recettes. Voilà. Dans le menu, il faut un peu d'attention des parents. Il faut aussi quelquefois un peu de sévérité. Ça, c'est important. Si ton âme mange trop de bonheur, de bonnes choses, s'il n'y a pas de piment, s'il n'y a pas de brûlure dans la vie, si tu n'as pas de choc, tu deviens une âme gâtée. Il faut l'équilibrer. Alléluia. Donc, mon âme n'était pas mature parce que moi, je manquais d'attention. Quelqu'un me suit? Et je m'étais rendu une personne dure, froide. Alléluia. Donc, lorsque je me vais elle, je n'étais pas prêt. Comment une âme immature se reconnaît-elle? Vous la reconnaissez parce que vous sentez que quand vous marchez avec la personne, elle a l'air complexée. Ça peut être ça. Deux, c'est une personne qui a constamment besoin qu'on l'assiste émotionnellement. Si tu l'as pas, elle est là, dans ma vie, tout le monde m'a abandonné. Si tu ne l'as pas appelé 3 jours, pourquoi? Ah, c'est une âme immature. Une âme est immature. Est-ce qu'on me suit? Une âme est immature. Pourquoi je dis que l'âme est immature? Parce que quelqu'un qui a la maturité ne fonctionne plus en mode de recevoir. C'est vrai qu'il reçoit, mais il fonctionne en mode de prendre en charge d'autres personnes. Lorsqu'un homme devient mature, il est capable d'engendrer la vie lui-même. Lorsqu'un enfant est bébé, il reçoit la vie de ses parents. Vous me suivez? On dit que l'homme atteint la majorité, la femme atteint la majorité, parce qu'ils sont capables de procréer. C'est la capacité de créer. Donc, ça c'est le physique. Dans l'âme aussi, on crée. Une âme, elle dit, tu es une femme, tu as 70 ans, mais tu as besoin qu'on te pouponne, si on t'a appelé, on t'a pas envoyé un petit SMS, je t'aime, je n'ai pas niqué. Tu as encore une enfant dans l'âme. Une personne qui est un symptôme d'une âme immature, les jalousies, la jalousie extrême et les envies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Si tu es une jeune dame, bien tu es un homme qui a peur de toute personne qui s'approche de ta fiancée, dès que tu la vois, tu sens que ton cœur boue. Tu dis ton coloc de bureau là, pourquoi c'est lui qui te dépose à la maison? Elle dit, ah, il n'y a rien. Je n'avais pas de transport. Il passait par là, il est venu me déposer. Non! Le gars n'a rien fait. Un jour, il vient déposer ta fiancée. Voilà, fais attention. C'est comme un type qui m'a raconté un jour. J'étais en train d'évangéliser sa fiancée dans la rue. Je lui parlais de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il est venu nous a dépassé. C'est pas sa fiancée, c'est sa copine. Il m'a dépassé. C'était dans une. On traversait la forêt d'Eveya à Gagnois. Et il m'a dépassé là. Et puis sa copine l'appelle. Elle dit son nom. Et il n'écoute pas. Il continue. Je dis c'est qui? Elle dit ah, c'est... elle m'a pas dit c'est qui c'était. Donc moi je lui parlais de Jésus. Un coup le monsieur se retourne là-bas. Sans me demander quoi que ce soit, il bondit sur moi, il me saisit, me projette dans les Eveya là. S'apprête à me balancer un de ses points et je le regarde. Je dis je t'aime, Jésus t'aime. Et il s'est mis comme ça. Il voulait me frapper à tout prix là. Je dis ah mon ami, il y a quoi? Vous voyez, c'est un enfant. Une personne comme ça, si vous faites l'erreur de la marier, vous allez souffrir. Ce n'est pas que ce n'est pas ton homme, mais ce n'est pas le temps. Il a encore un enfant dans son esprit, dans son âme. Il n'est pas rassuré. Il a besoin constamment d'être rassuré. Il croit que c'est toi qui fais. C'est vrai que tu peux mal te comporter, peut-être, mais son désir ou sa recherche d'attention le concernant est trop élevée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Ça veut dire certainement que ce n'est pas le temps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui est immature dans l'âme, c'est quelqu'un qui est extrêmement possessif. Ça peut poser des problèmes dans le foyer. Ça va empêcher l'autre de s'épanouir. Si vous découvrez ça étant fiancé, pour pouvoir dire, chair de ma chair, checker cette affaire-là, vérifiez ça. L'Esprit Saint vous dit, c'est ton mari. Il te dit, c'est ton mari. Ok, il te dit, c'est ta femme, d'accord. Mais vérifie si vous êtes chair de votre chair. Il faut vérifier. Parce que sa chair, du côté émotionnel, du côté de l'âme, peut être encore immature. Et si son immaturité ne change pas après plusieurs tentatives, il faut savoir que la période des fiançailles est la période où on a le droit de se séparer. Être fiancé, ce n'est pas être marié. Il n'y a pas d'engagement absolu dans les fiançailles. Les fiançailles sont le seul moment où Dieu vous donne la capacité de fuir. Après le mariage, là, on ne fuit plus. Donc, quand on est fiancé, ce n'est pas un péché si, après un moment, tu constates que chair de la chair, là, ça ne va pas. Ne dis pas, non, ça ira. Fais comme Joseph. Quand Joseph a vu que Ève, et je dis Ève, que Marie était enceinte, la Bible dit qu'il a proposé de rompre secrètement. Parce que quand on est fiancé, on peut rompre. Maintenant, c'est Dieu qui lui a dit, il ne faut pas le faire. Vous comprenez? Alléluia. Vous n'êtes pas tenu parce que les parents vous ont connu. Ne vous mettez pas des chaînes que Dieu ne vous a pas données. Ne portez pas des liens que Dieu ne vous a pas donnés. Dieu dit, c'est quand on est marié, on ne peut pas se séparer. Quand on est fiancé, on se fiance même. Pour vérifier qu'on est mariable. Si la vérification ne passe pas, tu n'es pas obligé. Prends tes chaussures, sors, fuis de cette affaire. Ne croyez pas que les fiançailles sont le mariage. Cette fiançaille n'est pas mariage. Bon, c'est aussi bizarre une personne qui a eu 40 fiancés quand même. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc du côté de l'âme, vous devez checker le tempérament, la maturité, la responsabilité de la personne. Est-ce que le monsieur ou la femme est responsable? Amen. Amen. Un responsable, c'est ce que je disais tantôt. Est-ce que la personne, un homme mature, tu dois sentir qu'il a, il est prêt à gérer un foyer. Il sent qu'il va donner, qu'il va bâtir. Amen. C'est pareil aussi pour une femme. La maturité est très importante par rapport au temps. La responsabilité. Vous sentez qu'on est responsable. Quelqu'un qui fuit tout, qui ne prend pas ses responsabilités. Une personne dont on doit s'occuper à 100%. C'est-à-dire que si tu commences à te fiancer avec ton mari et tu te rends compte que il est toujours demandeur, tu dois t'occuper de tout le concernant. Ça signifie que soit ce n'est pas la bonne personne, soit ce n'est pas le temps de vous marier. Un homme doit s'occuper de sa maison. Amen. C'est un enfant qui attend que ses parents s'occupent de lui. Si un homme a manqué l'affection de sa maman, malgré son âge, il peut chercher dans sa femme sa maman. Donc, or un enfant et sa maman, maman s'occupe de l'enfant. Donc, il se marie, mais il est la personne peut être un peu paresseuse. La femme travaille, lui il mange. Il est couché. Il n'était pas prêt. Avant de te marier, assure-toi que même si au départ il n'était pas capable de te prendre en charge, tu sens qu'il est responsable. Son salaire peut ne pas être suffisant, mais tu sens qu'il a la conscience de son devoir de chef de famille. Il vient, il apporte, il sait que c'est lui qui doit le faire et tu dois le sentir dans les fiançailles. Tu peux avoir un salaire meilleur que lui par rapport à là où vous travaillez. Ça peut changer avec le temps. On ne peut pas se fier au salaire qu'une personne a dès le moment. Mais c'est quelque chose qu'il faut checker chez un homme. Il faut sentir ça. Est-ce qu'il veut s'occuper de toi? Ou il dit, bon, ton salaire est plus élevé que les miens. Pour le moment, c'est toi qui t'occupes. Quand mon salaire? Non. Il n'y a pas quand ton salaire. Avec ton petit salaire, gérons l'avenir. Alléluia. Amen. Là sont des choses que vous devez sentir pour pouvoir dire chair de ma chair. Quand on dit chair de ma chair, c'est tout cela qu'on regarde. Amen. On regarde aussi quelques habitudes, le courage, la détermination. Et dernière chose que nous avons dit pour pouvoir terminer, chair de ma chair, c'est aussi l'apparence physique. Est-ce qu'on a compris chair de la chair en ce qui concerne l'âme? Dans l'âme, vous avez les émotions, vous avez les habitudes, vous avez le tempérament. Il faut faire attention à ces choses-là. Quand vous commencez à cheminer avec la personne, il faut le vérifier. Si vous ne le faites pas avant que vous mariez, vous allez devoir traiter cela dans le foyer. Ça peut vous prendre du temps. Moi, ce qui s'est passé, j'ai traité cela avant. Donc, j'ai gagné du temps. Ça a duré 3 ans. J'ai dit à Dieu, mais c'est trop. Il y a d'autres filles dans l'église, Seigneur. Il dit, c'est ta femme. Mais tu n'es pas prêt. Je dis, quand même, un homme comme moi. Je suis en train de finir mes études, je vais travailler, j'ai fait une grande école. Seigneur, je peux. Et puis, je prêche, je connais la Bible. Il dit, l'âme là, c'est autre chose. C'est autre chose. Un aspect que je n'ai pas dit dans les habitudes, dans les habitudes, je l'ai dit à l'enseignement précédent. Celui qui est mature et qui s'apprête à se marier, dans sa tête, comme je l'ai dit, il fait de la place. J'avais expliqué ça en Éden. Il faut faire de la place à l'autre. Il faut se préparer à cela. Ça, je l'avais dit. Maintenant, l'attirance même physique, le physique de la personne. Le physique n'est pas à négliger. Comme je l'ai dit tantôt, il va vous aider. Pourquoi? Parce que en chacun d'entre nous, naturellement, il y a un type physique d'homme ou de femme qui ne nous laisse pas indifférents. Quand tu vois une personne qui a cette forme, tu regardes. Quand une autre personne a une autre forme différente de la forme que tu aimes, tu la vois. C'est-à-dire, vous pouvez être dans le même endroit. Tu ne vas même pas la voir. La personne est obligée de venir se présenter. Bonjour, je suis là. C'est moi, la sœur Gasparetta. Alléluia. Donc, nous avons un type de physique qui ne nous laisse pas indifférents. Et si vous êtes conscient, vous allez vous rendre compte que ce type de physique qui vous est inculqué par Dieu, avant même votre naissance, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça est là en vous. Ce type de physique là que vous appréciez peut être corrompu. C'est-à-dire, vous pouvez finir par croire que vous aimez un autre type. Et si vous finissez par croire que vous aimez un autre type, vous allez vous tromper. Et comment est-ce que cela peut arriver? Cela peut arriver parce que vous êtes lavé et vous êtes lavé dans votre esprit en suivant l'esprit de la mode et du monde. Le monde, à chaque étape, produit un physique qu'il estime être la beauté idéale. Donc, pour être Miss Monde, c'est-à-dire pour être la femme la plus belle du monde, il ne faut pas être forte. Donc, si tu n'es pas, si tu es une femme qui est forte, le concours international de Miss, faut même pas imaginer même que tu iras là-bas. Pour être Miss Monde, vous connaissez les Miss Monde, non? Il faut être mince, grande, et puis un beau visage. Si tu as un beau visage, que tu es petite, tu ne peux pas être la plus belle femme du monde. Oh, tu es la plus belle femme du monde. Alléluia. Si tu es trop grande, en tout cas, le monde a ses critères. Et le danger, c'est que beaucoup de personnes finissent par croire, par accepter ces critères. Donc, dans son cœur, dans ses gènes, en réalité, il n'est pas indifférent aux femmes un peu pas très grandes et plus fortes. Alors, il va se marier avec ce qu'il pense être sa chair. Or, il a fait un mariage de circonstance par rapport à la mode pour dire à ses copains que lui aussi, il a marié une Miss. Il va prendre une femme grande, style Miss Monde. Et, mais inconsciemment, vous allez vous rendre compte que peut-être pour sa secrétaire, pour les gens qu'il peut choisir, il va souvent choisir le type qui sort vraiment de son cœur. Et le jour où vous allez voir, vous allez découvrir si le monsieur devient adultère, parce que la Bible dit pour te protéger de l'impudicité, faut te garder, faut avoir ta femme. Vous allez voir que la femme avec qui même il trompe sa vraie femme là, quand vous comparez les beautés, vous dites ah, mais tu as une femme comme ça, et puis c'est avec quelqu'un l'autre là, mais vraiment on ne comprend pas ton choix. En fait, la réalité c'est que il a obéi, c'est-à-dire sa chair est constamment attirée par un autre format. Mais pour suivre la mode, il a choisi le format mondial. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Vice versa. Aujourd'hui, chez les filles, il y a aussi un format mondial d'hommes. Un format James Bond. Un format... Donnez-moi quelqu'un. Les gars un peu musclés, grands d'une manière, pas très gros. Qui aiment se couper la barbe d'une manière. Un peu musclé. Tu as fait un peu de muscu, tout ça. Waouh, quel bel homme. Et la fille, elle a envie d'avoir quelqu'un comme ça. Or, en réalité, elle aime les hommes un tout petit peu enrobés. Son foyer, sa vie sera constamment agressée si elle se marie avec quelqu'un qui n'est pas cher de sa chair. Quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un qui a déjà marié, dit, mais pasteur, comment on fait? Amen, amen. Je crois que dimanche prochain, je finirai avec cet aspect. Amen. Alléluia. Pour traiter ce cas, parce que chair de la chair aussi, j'oubliais, peut être corrompu. Peut être corrompu soi-même parce qu'on rejette son propre corps. Donc, l'homme ou la femme peut faire de mauvais choix tout simplement parce qu'il veut copier un standard que le monde dit être le standard. Or, chaque homme a son standard selon Dieu. Et ça, ton standard, il faut le reconnaître. Il ne faut pas le renier. Parce que ton trésor à toi se trouve dans une femme ou bien dans un homme qui a ton vrai standard. Ton vrai standard, tu peux l'avoir oublié parce que tu fonctionnes pour plaire aux hommes. Et tu suis pour suivre la mode. La mode vous détourne de ce qui est essentiel. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Romains chapitre 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Deuxième chose, tu peux te rejeter toi-même. Physiquement, le complexe. Si quelqu'un se rejette physiquement, il n'apprécie pas sa forme, il n'apprécie pas son type, la personne va avoir beaucoup de réactions qui peuvent être très négatives. Rappelez-vous ceci, la Bible dit, tu vas marier ton semblable. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit semblable. Une aide semblable. Alors, suis très bien cette partie. Toi, tu as un standard. Ton standard, c'est Bernadette. Tu t'appelles Bernadette. Et, ou bien on va dire Gasparette, parce que peut-être il y a une soeur qui s'appelle Bernadette ici. Gasparette. Mais, tu n'aimes pas ta façon d'être et tu as envie d'être comme, donnez-moi le nom d'une star. Shakira. Ok. Toi, tu es Gasparette. Tu n'es pas Shakira. Mais comme tout le monde, oh Shakira, 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 subitement, tu commences à te déguiser, à aller modeler ton corps, faire des coiffures de Shakira, faire le maquillage de Shakira. Si, je ne connais pas Shakira, je ne sais pas si elle a percé beaucoup ses oreilles, mais si elle a, les gens percent leurs oreilles, toi, ton physique réel, c'était un seul trou. Maintenant, tu en as fait 50 sur la langue. Pourquoi? Parce que ce que tu es, tu ne le trouves pas beau. Et au lieu d'avoir ta chair à toi, ton physique à toi, tu as maintenant le physique de qui? Shakira. Ça peut être un homme. Au lieu d'avoir ton physique à toi, tu prends le physique de qui? Qui ça? Donnez-moi le nom d'un homme. Brad Pitt. Lui, je le connais parce que j'aime ses films. Donc tu prends le physique de quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que ce n'est pas toi. Quand l'homme doit te reconnaître, il fait comment? Lorsque tu arrives à l'église, tu pries, tout le monde te trouve bien. On dit, ouh, elle a un style shakiraïque. Elle ressemble un peu à Shakira là. Mais tu ne vas attirer vers toi que des hommes qui ne te sont pas assortis. Parce que le truc, c'est que Dieu ne t'a pas créé à la Shakira, Dieu t'a créé Gasparette. Donc, le physique de ton physique, c'est Gasparette, c'est pas Shakira. Or, on ne te voit pas parce que tu es transformé. Donc, ton mari peut être à côté de toi, mais il ne sait pas que c'est toi. Parce qu'à côté de lui, c'est Shakira. Donc, s'il marche avec toi, il va dire, la soeur là, on est os des os, mais chair de la chair. Tu vas attirer vers toi tous ceux qui aiment les Shakira. Or, ton mari n'est pas censé aimer le type de Shakira. Il est fort probable que tu maries quelqu'un qui ne t'est pas assorti. Parce que comme Shakira a beaucoup de fans, un fan de Shakira, ton mari n'est pas un fan de Shakira, ton mari c'est un fan de Gasparette, comme tu es. Or tu es devenu Shakira. Est-ce que tu vois comment c'est dangereux? C'est pourquoi les mariages sont rares, c'est pourquoi les divorces sont multipliés. Parce que les femmes et les hommes se sont déguisés en d'autres personnes. Et après le déguisement, on découvre la réalité. Parce que quand on rentre à la maison, on enlève le maquillage shakiraïque. Dans ton naturel, tu deviens Bernadette. Tu deviens Gasparette. Amen, amen, amen. Alléluia. Autre chose aussi, tu peux estimer que tu dois attirer le semblable, c'est attirer une personne. Tu peux attirer les gens, non pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu dois garder en réserve. Je vais parler maintenant sur un peu du sexe. Le danger de se vêtir de manière sexy, c'est détourner. Vous savez, le diable incite les filles. Oh, sois sexy. Aujourd'hui, pour parler de beauté même, on dit une fille, une femme sexy. C'est dangereux. C'est pour ça qu'on a un divorce sur deux. Les gens se marient dans le désordre. Le truc, c'est que lorsque vous vous vêtissez de manière sexy, vous laissez paraître certaines parties de votre corps, vous attirez les gens, non pas sur qui vous êtes, mais sur ce que vous avez. Le truc, c'est que si tu lui présentes que tu es sexuellement attirante, il ne viendra vers toi que pour le sexe. Donc, tu vas marier une personne qui ne s'intéresse qu'au lit. Tout ce qui se passe dans le lit, c'est ce qui l'intéresse. Mais toi-même, ta personne, qui tu vaux, qui tu es, n'est pas manifesté. C'est pourquoi Dieu demande de ne pas de se vêtir décemment. Alléluia. N'expose pas rapidement tes ton charme. Il faut savoir le gérer. Si tu t'exposes, qui tu vas attirer? Quand les gens vont dire chair de ta chair, ils voient rien d'autre. La fille là, vraiment. Une nuit. Mais il va te marier pour une nuit avec toi. Il faut vous vêtir décemment. Alléluia. Sinon, vous allez attirer vers vous les personnes qui ne vous sont pas assorties. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quel que soit le type que je suis, je dois aussi me faire beau, me faire belle, entretenir mon corps. Parce que entretenir son corps, ça fait ressortir la beauté que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois bénir Dieu pour la créature que je suis. Psaume 134 dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ma soeur, si Dieu a fait que tu n'es pas grande, que tu es petit détail, sois trop fier de ta petite taille. Marche dedans. Dis: oh Jésus, je te bénis. Parce que c'est exactement ce que l'homme qui te cherche recherche. Si tu apparais autrement, tu vas faire une erreur. Amen. Donc, sachez bénir Dieu pour qui vous êtes. Si vous avez un complexe de votre personne, vous êtes susceptible de vous tromper. Il faut apprécier ce qui vous êtes. Il faut apprécier la façon dont Dieu vous a fait. Bien sûr, si tu as pris trop de poids, là, ce n'est pas Dieu qui t'a fait comme ça. Voilà, tu dis non, tu as 20, 30, 40 kilos de trop. Là, c'est dangereux pour ta santé. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Là, il faut perdre un peu. Amen. Voilà, fais un peu de régime, du sport, ça va aller. Alléluia. Voilà, je ne parle pas de ça. Je parle de ton vrai toi, ton naturel. Et lui, par contre, lorsque tu le trouves, parce que tu sais qu'il est excellent, parce que tu sais que tu es une belle femme, tu dois mettre ce que Dieu a fait en valeur. Trop de personnes n'attirent pas leur homme parce qu'elles ne mettent pas en valeur. Toi-même, tellement tu as honte de toi, tu te caches, tu caches ton visage. Mais tu es une belle femme. Y a quoi? Pourquoi tu t'entretiens comme ça, bizarrement là? N'aie pas honte. Est-ce que tu t'entretiens mal parce que tu as honte de qui tu es? Toi-même, tu as envie de passer inaperçu même dans l'église. Faut pas, parce que si tu fais ressortir, tu mets un peu de phare ici, tu mets un peu de deux, trois, on va voir que tu n'es pas jolie. Donc, je vais rien mettre, je passe inaperçu dans l'église. Écoute-moi, tu es belle. Dis: Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Pareil pour les hommes. Il faut être, quand tu veux un truc, il faut être propre, tout ça. Il faut entretenir le corps de Dieu. Il faut entretenir le temple du Saint-Esprit. C'est très important. Amen, amen, amen. Amen. Donc, bénir Dieu pour qui on est, quelle que soit la forme qu'il nous a donnée. Même si on a un handicap, on a un handicap physique, on bénit le Seigneur. Même si on a un handicap physique, ça sera ta particularité. Et puis l'avantage, vous savez, la Bible dit, la beauté est vaine. Mais celle qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. Il y a un avantage à être une très belle femme. C'est bien. Être très bel homme, c'est une bonne chose que Dieu vous a donnée. C'est une grâce. La Bible dit que David était un bel homme. La Bible dit d'Absalom qu'il était un bel homme. Dieu reconnaît la beauté. Dieu a sculpté certaines personnes. Et c'est une grâce. Il n'y a pas aussi à en avoir honte. Amen. Mais celui qui est beau, ou qui est une femme qui est très belle, a un autre risque. On n'a pas tout dans la vie. Le risque, c'est d'attirer trop de gens vers soi. C'est-à-dire, tout le monde fait des visions et des songes que tu es leur femme. Frère, tout le monde voit que tu es l'homme idéal. Toutes les femmes. Le danger, c'est que, vous savez qu'un homme dans la forêt, vous vous souvenez de l'épisode de nommer les animaux. Celui qui physiquement est très attirant, c'est qui est une faveur pour la personne qui va te marier, sera vraiment heureuse d'avoir. C'est bien, c'est une grâce, que le nom du Seigneur soit béni. Mais tu auras beaucoup de gens à. Tu auras. Il y a 200 hommes qui veulent te draguer. Donc il faut retrouver à l'intérieur où est le vrai. Donc il y a un avantage, il y a un inconvénient. Quand une fille aussi apparemment n'est pas trop attirante, il n'y a pas beaucoup de frères qui viennent parler. Donc c'est plus facile de reconnaître le vrai frère entre trois garçons. Qui t'ont fait des avances, que entre 200, dans tous les endroits où tu arrives, tout le monde te regarde. Donc à un moment donné, tu es saturé. Dès que tu vois quelqu'un, ah, laissez-moi. Oh, hé Jésus, pourquoi tu as fait ça? Tout le monde veut. Oh, aie pitié. Mais la soeur que personne ne voit, c'est aussi un avantage. Il y a quatre personnes seulement qui vont venir. Donc quand tu pries, il y a quatre prières. Et c'est facile. Oh, l'autre, elle a 300 prières à faire. Vraiment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Alors, par la grâce de dimanche prochain, on va terminer ce volet et puis toucher le dernier. J'espère qu'on pourra le faire. Mais il n'y a pas à avoir honte de qui nous sommes. Dieu t'a donné ce physique pour un but précis. Et ton physique sied à une personne précise. Ton physique est la révélation ou est la forme apparente du trésor que tu transportes. Alléluia. N'aie pas honte de qui tu es. Bénis le Seigneur de qui tu es. Ne suis pas la mode. Dieu va voir, tu vas avoir ton propre maquillage à toi, ta propre façon de te coiffer. Tu vas te coiffer pour ce que tu estimes qui met en valeur la beauté que Dieu t'a donnée. Homme, tu vas t'habiller, tu vas te vêtir pour ce que tu estimes, parce que Dieu te convainc. Même ton vêtement, tu laisses le Saint-Esprit le montrer. N'essaye pas à être quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Sois ce que Dieu a fait de toi. Dieu te trouve déjà très merveilleux. Tu vas bénir le Seigneur pour ta vie. Tu vas rendre grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Merci Père pour tes bienfaits. Merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la louange te soient rendus au siècle des siècles. Seigneur, je prie afin que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies. Que cette parole puisse délivrer plusieurs des complexes. Seigneur, nous sommes des créatures merveilleuses. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à mettre en valeur cette faveur, ces grâces et ce potentiel que tu as déposé en chacun d'entre nous. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à ne pas avoir honte de ce que tu as fait de nous, mais à bénir ton nom pour qui tu as fait de nous, Seigneur. Donne-nous aussi de savoir reconnaître celui qui est chair de la chair, os des os, chair de la chair. Merci, Seigneur, pour les couples. Je prie qu'ils apprennent à apprécier le conjoint que tu leur as donné. Merci, Père, pour tes bienfaits. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.
Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.